Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mélèze tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un nouvel épisode de notre très attendue et riche série, L'écologie aux petits oignons. La série qui emprunte les mirettes d'humains passionnés de ces multiples êtres peuplant notre planète. À chaque épisode, nous tournons la feuille et l'oreille pour que l'humain, dans toute sa diversité, nous parle de sa vision du vivant. Cette semaine, un fervent gardien du droit du vivant s'invite sur les ondes. Peux-tu te présenter pour nos auditrices et auditeurs?
Yeah, nigga. I'm still fucking with you.
Je m'appelle Andrea Rigalcasta, je suis avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit de l'environnement et cofondateur du cabinet GéoAvocat, qui est un cabinet intégralement dédié au droit de l'environnement. Et j'ai créé GéoAvocat avec Colin Robert, évidemment parce que je suis avocat en droit de l'environnement, mais aussi par passion, parce que depuis tout petit, je suis passionné de sciences, et notamment de biologie et de physique-chimie, tout en ayant très tôt était sensibilisé à la protection de la nature et notamment de la biodiversité, ce qui m'a amené à me poser cette question dès le plus jeune âge, comment allier à la fois cette passion et en même temps mon envie de défendre la biodiversité. Et c'est au cours de mes années universitaires à la fac de droit que le droit de l'environnement s'est complètement affirmé comme étant la voie royale pour moi, puisqu'elle me permettait à la fois donc de défendre, comme un avocat de manière générale le fait, et en plus de le faire en allant puiser dans ma passion pour la science et la biologie et en utilisant le plus possible des publications scientifiques, par exemple, pour agrémenter nos argumentaires. Aujourd'hui, c'est un peu le travail que j'ai trouvé à force de nourrir ma réflexion. Et enfin, ce choix a été fait à l'issue de plusieurs bifurcations, puisque je suis passé du projet de devenir astrophysicien à celui de devenir peut-être éventuellement juriste dans peut-être un organisme non gouvernemental, puis finalement avocat. Bon voilà, je crois qu'aujourd'hui, les générations qui sont actuellement sur le monde du travail savent exactement de quoi je parle. On se cherche finalement tout au long de notre vie et nos emplois reflètent tout ça. Si ce n'est que quand même aujourd'hui, je vous avoue que chez GéoAvocat, je suis particulièrement heureux parce que justement j'ai l'opportunité de travailler sur les sujets qui m'intéressent, avec les personnes qui le défendent dans le sens qui me parle le plus, et avec des associés et une collaboratrice qui sont à côté de cela mes amis. Donc c'est le job dont j'aurais dû rêver quand j'étais jeune, et aujourd'hui je suis très content de le faire. J'ai toujours joué aux jeux vidéo et je joue toujours aux jeux vidéo. Je suis devenu très très sélectif dans le sens où je joue à des jeux dont les retours critiques m'assurent qu'ils auront un impact émotionnel fort, qu'ils aborderont des sujets profonds et avec cette subtilité parfois que seul le jeu vidéo peut permettre, puisqu'on est actif dans le déroulé de l'histoire. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de trouver tous ces jeux un petit peu subtils, un petit peu cachés parfois, qui me mettent des claques émotionnelles, parfois davantage que certains films. J'adore le fromage, je suis corse d'origine du côté de ma mère. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire du fromage, à la diversité des fromages français et autres d'ailleurs. Ça m'amène finalement à découvrir des contrées, découvrir aussi un univers gustatif toujours très, très intéressant et fou.
Dis-nous, qu'est-ce que le vivant signifie pour toi ? Saurais-tu le décrire en trois mots, un goût, une odeur, une couleur, une texture, un son?
Pour moi, le vivant, c'est à la fois notre berceau, notre pays et notre peuple. C'est notre berceau parce que c'est évidemment de là où on vient, notre matrice à nous tous. Notre pays, je pense, parce qu'on est tous interconnectés en tant qu'êtres vivants avec les autres êtres vivants, et donc quelque part, est-ce qu'on ferait pas un peu société du vivant sur la planète Terre? J'aime à le croire. C'est mon peuple en tant qu'être vivant au milieu des autres êtres vivants, on parvient parfois à créer des liens d'empathie, ne serait-ce que pour ça. Et donc là, c'est un rapport bien plus individuel entre chacun des êtres vivants, et c'est en cela que forme tout ce grand peuple des êtres vivants. Eh bien, le goût, le fromage, qui est un aliment vivant, est gustativement une expérience justement intéressante de la vie, notamment pour certains fromages qui, comme les champignons, peuvent apporter un goût de sous-bois. Donc il y a un petit peu ce lien, encore une fois, entre l'animal et le végétal qui se forme et qui me plaît beaucoup. Sur les sons, alors, du ressac, de la mer, les sons liés à la plage, mais aussi la plage la nuit, et cette espèce de son qui est en fait lancinant et pour autant jamais dérangeant. Je pense qu'on est tous très sensibles justement aux bruits répétitifs qui parfois nous empêchent de dormir, et je trouve que le son du ressac a pour lui d'être le seul son répétitif qui justement nous berce davantage, qui nous gêne. C'est une interface entre le monde aquatique et le monde terrestre, ce moment de paix entre ces deux mondes-là. Une couleur, j'aime beaucoup le vert qu'on pourrait qualifier de vert émeraude, c'est-à-dire un vert qui est très près du bleu. Je le trouve magnifique parce qu'il est encore très très végétal. Il est également un petit peu la couleur des eaux, des estuaires par exemple, et des eaux qui sont peu profondes mais qui regorgent de vie. Pour moi, c'est une couleur très rassurante dans ce sens-là, où elle montre en fait que grouille quelque chose à cet endroit-là et que les écosystèmes font leur office. Sur la texture, je trouve que le contact avec les feuilles d'arbre est très agréable, parce que justement, lorsqu'on touche une feuille d'arbre, on sent un petit peu ce mariage de cellules et de structures qui composent cette feuille d'arbre. Et alors, je ne sais plus quel grand écrivain l'a dit, mais je trouve que lorsqu'on touche cette feuille d'arbre, on ne peut pas s'empêcher d'être un petit peu ébahi par la complexité magnifique de ces organismes.
Comment retranscris-tu cette vision du vivant dans tes projets ?
D'abord par un rapport au vivant qui est un rapport relativement humble, c'est-à-dire celui d'admettre que parfois nos impressions peuvent être faussées, notamment sur les relations entre êtres vivants, sur les dynamiques écosystémiques. On espère combler ce manque d'information par une référence constante aux données scientifiques. Une autre façon pour nous de traduire l'importance du vivant dans les dossiers juridiques, c'est en soulignant et en utilisant au maximum tous les concepts juridiques qui existent aujourd'hui en droit français et qui soulignent, donnent un rôle au vivant dans les relations juridiques. Alors aujourd'hui, on parle énormément de donner des droits directement à des éléments de la nature, mais alors en soi, ça reste une idée intéressante, mais nous, bien sûr, on l'utilise pas parce que ça n'existe toujours pas. On utilise davantage des concepts juridiques tels que le préjudice écologique, par exemple. Le préjudice écologique, ça consiste à faire en sorte que tout le monde soit responsable des impacts qu'il a sur les écosystèmes, dès lors que cet impact est durable et substantiel. Et donc, quelque part, ce que ça veut dire, c'est qu'on se trouve responsable à l'égard de la nature, à l'égard des êtres vivants. On leur porte une atteinte, on doit réparer cette atteinte, et surtout, on doit la réparer en priorité, en nature. C'est ce que dit le Code civil, et je pense que cette expression n'a jamais été aussi littérale qu'aujourd'hui. Donc voilà, on recourt beaucoup à ce concept-là, qui est très intéressant pour rééquilibrer quelque part les relations entre les êtres humains et les autres êtres vivants. On utilise aussi d'autres concepts qui sont peut-être un peu moins connus, mais par exemple un concept qui a un nom à coucher dehors, mais qui reste relativement intéressant, et qui s'appelle l'équilibre agro-silvo-synergétique. Qu'est-ce que c'est en trois mots ? C'est le fait que l'administration doit, lorsqu'elle autorise une activité, notamment l'activité de chasse, s'assurer que cette activité ne portera pas atteinte à la pérennité des espèces visées par cet acte de chasse, tout en prenant en considération donc à la fois évidemment la durabilité de la population de l'espèce, également le fait qu'il est impératif de conserver une biodiversité riche et variée localement, mais aussi en prenant compte évidemment et malheureusement les dégâts qui pourraient être occasionnés par cette espèce-là. J'utilise d'une part pour rappeler à l'administration que son rôle, c'est aussi de faire en sorte que la biodiversité soit de bonne qualité, qu'elle soit durable, tout en lui rappelant que lorsque elle autorise un acte qui porte atteinte à cette biodiversité parce que cette biodiversité éventuellement ferait des dégâts, eh bien encore faut-il démontrer que ces dégâts sont importants, que ces dégâts sont bien dus à l'espèce parties qui se trouvent visées par une décision de chasse, par exemple. Et d'ailleurs, on est assez souvent très surpris de constater que cet aspect-là, le lien qu'il y aurait finalement entre une espèce et des dégâts qui lui sont attribués, est parfois difficile à démontrer par l'administration. Et donc, c'est notre façon de défendre le vivant à travers le peu de droits qu'on lui donne pour l'instant et réduire au maximum les atteintes qui sont ordonnées contre lui. De manière professionnelle, bien sûr, c'est la protection de l'environnement, mais pour nous, la protection de l'environnement, c'est la protection de la vie. Le logo de notre cabinet, c'est une diatomée. Donc, finalement, les vestiges d'un phytoplancton qui, à une époque, a été la base de la chaîne alimentaire et donc de la vie sur Terre. Et donc, pour nous, c'est un symbole très fort et c'est aussi un symbole de holistique de la vie sur Terre.
D'après toi, qu'est-ce que l'humain peut apporter à l'ensemble du vivant ?
Je pense qu'aujourd'hui, et depuis maintenant peut-être plusieurs siècles, l'humain a atteint un niveau de puissance globale qui lui donne une sorte d'impression qu'il aurait une position surplombante par rapport au reste du vivant. Et cette position de puissance, malheureusement, se traduit régulièrement par de la destruction déraisonnée. Alors que c'est aujourd'hui que toute cette puissance, justement, devrait davantage impliquer une responsabilité. Une responsabilité qui est tout d'abord celle de mieux comprendre les écosystèmes et l'intégralité du vivant au milieu duquel on se trouve, mais aussi la responsabilité justement de le préserver. Alors là, on peut avoir plusieurs écoles, soit l'école très anthropocentrée qui voudrait que l'on préserve le vivant parce qu'il justement participe à la vie de l'homme, de l'humain, devrais-je dire plutôt. Il y a l'autre école qui, eh bien, considère que le vivant, par principe, a une valeur et doit être préservé pour cela. Alors moi, personnellement, je penche pour la deuxième école, évidemment, mais ensuite, professionnellement, je m'en tiens à ce que le droit permet ou ne permet pas, et donc, bien sûr, je ne peux pas traduire une approche personnelle, de toute façon, ce n'est pas mon rôle. Mais dans tous les cas, je pense qu'on pourrait aboutir à un rôle de l'homme qui serait un rôle un petit peu plus bienveillant à l'égard du vivant. On a l'air, en tout cas, d'être de manière assez surprenante câblé pour ça, puisque plusieurs études en psychologie montrent que, eh bien, lorsque l'on vit dans un environnement aseptisé, où la nature a finalement peu sa place, on en souffre. On a besoin de retrouver la nature, on a besoin de retrouver de la verdure, on est facilement passionné par les espèces animales qui nous entourent. On a un attrait pour le littoral, pour la montagne, des environnements où le vivant est omniprésent. On pourrait, on devrait, pour être optimiste, arriver à cette compréhension commune avec le vivant que notre interconnexion est indispensable pour nous et qu'elle peut aller dans les deux sens, c'est-à-dire que l'homme entretient l'environnement en tant que l'environnement l'entretient lui. Et je pense qu'on trouverait ici un équilibre, à mon avis, salutaire pour tous.
On va passer à la question d'actualité. Le précédent épisode Feuille de Chou, numéro 48, un podcast sur le site de notre radio PFM 99.9, portait sur la publication de l'avis du CESE. Restauration de la nature face à l'urgence, donnons l'envie d'agir. Le CESE, alias le Conseil économique, social et environnemental, conseille le gouvernement et le Parlement. Il représente les organisations de la société civile et associe les citoyens à la vie démocratique. 175 conseillers et conseillères sont nommés pour 5 ans et arrivent d'horizons très divers, étudiants, chasseurs, CGT, MEDEF, LPO, Mouvement de la Jeunesse et bien d'autres encore. En cette fin janvier 2025, le CESE a remis un avis supposé aider aux décisions cruciales que notre pays devra prendre, et prend déjà, pour correspondre aux objectifs fixés à l'échelle européenne et mondiale. Pour le CESE, le plan national de restauration de la nature est l'occasion de mettre en cohérence les politiques et outils existants. Au vu de l'urgence à agir et réussir la restauration, le CESE appelle à une collaboration concertée à tous les niveaux pour une action efficace en mobilisant l'ensemble des parties prenantes, services de l'État, collectivités, associations, particuliers. Il est crucial d'expliquer les choix, de fournir l'appui nécessaire à l'engagement et de rendre visibles les bénéfices d'une nature restaurée pour la société. La France pourra ainsi relever le défi d'inscrire son développement dans le respect de la nature. Dans cet avis sont développés 3 axes afin d'avoir un plan national solide que je vais résumer en quelques phrases. Travailler au niveau local, en utilisant notamment les agences régionales de la biodiversité, renforcer les connaissances, en mobilisant les compétences et en favorisant l'engagement populaire, avec par exemple une campagne nationale de sensibilisation et de mobilisation à destination du grand public, autour des objectifs des projets de restauration de la nature. Mettre des chiffres à atteindre pour que les professionnels de tous bords soient formés à ces questions et valoriser toutes les avancées via des labels. Relancer tous les contrats qui permettent de créer des dynamiques de territoire en faveur des écosystèmes. Prenons par exemple le réseau Natura 2000 ou les obligations réelles environnementales et les baux ruraux environnementaux. Les semaines qui ont suivi cette publication poussent à s'interroger sur la lecture et la compréhension de cet avis. Difficile de trouver une trace dans le projet de loi d'orientation agricole, dans la loi du plomb ou encore dans le nouveau budget de l'État. À la lumière de ton expérience et de ta vision du vivant, que penses-tu de tout cela ?
On a d'un côté encore un changement de paradigme qui est très intéressant du côté des textes purs et notamment ceux en provenance de l'Union européenne. Le cas qui nous intéresse aujourd'hui sur le règlement sur la restauration de la nature me parle beaucoup parce que il opère un changement de paradigme qui a été finalement très peu remarqué mais qui pourtant est fondamental. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment du premier règlement centré sur le fait de ne plus sanctuariser la nature mais davantage accepter que les écosystèmes dignes d'être protégés ou d'être restaurés, puissent être absolument partout. Qu'ils puissent être dans un milieu urbain, qu'ils puissent être dans un milieu agricole, qu'ils puissent être évidemment aussi en forêt ou dans des endroits qu'on a réussi à conserver. Il y a cet aspect-là qui, pour le coup, nous donne l'impression d'avancer et de tenir compte justement des données scientifiques qui soulignent à chaque fois l'importance des corridors écologiques, l'importance des continuités, que ce soit les continuités géographiques, mais aussi les continuités dans les relations interespèces, et que donc on ne pouvait pas uniquement faire des bulles de zones protégées par-ci par-là et s'en contenter. Non, au contraire, il fallait admettre que la nature doit être davantage présente dans les milieux urbains notamment. J'attends avec impatience les premiers plans nationaux. Et en même temps, évidemment, l'actualité parle pour elle, notamment l'actualité sur l'avenir juridique du droit français positif, donc notamment la loi agriculture, la loi du plomb, effectivement, mais aussi peut-être un projet de loi qui a été déposé par le Premier ministre lui-même et qui porte en lui un détricotage du droit de l'environnement à la suite de la loi pour l'agriculture. On y trouve des choses quand même très inquiétantes, par exemple des conditions facilitées pour obtenir des dérogations à l'interdiction de destruction des habitats et spécimens d'espèces protégées qui avaient commencé à être mises en œuvre pour, par exemple, les installations de production d'énergie dite renouvelable. Là, on les étendrait complètement aux activités agricoles. C'est particulièrement inquiétant dans le sens où les scientifiques et à leur suite les institutions telles que l'Observatoire national de la biodiversité avaient déjà constaté que l'effondrement de la biodiversité en ce qui concerne la France était en grande partie dû à la destruction évidemment des habitats des espèces locales, notamment des plaines. Et donc on comprend bien qu'il y a vraiment un aspect très précieux au fait de conserver ces habitats-là. Mais il ne faut pas oublier que porter atteinte à la biodiversité française par l'agriculture, c'est in fine porter atteinte à l'agriculture. Parce que, c'est d'ailleurs souligné dans le rapport du CESE, plus de 75%, me semble-t-il, des espèces végétales cultivées en France dépendent de la biodiversité qui l'entoure, que ce soit des pollinisateurs, que ce soit de la biodiversité des sols qui, évidemment, participent à leur fertilité. Je vois dans ce climat-là, mais qui est aussi le climat international, malheureusement, un déni de la parole scientifique, une volonté de ne pas en tenir compte pour des raisons, je trouve, peu claires. J'ose espérer qu'on trouvera des moyens de faire entendre raison à tout le monde et que, ça je l'espère de tout cœur, les juges prendront leur part dans ces conflits à venir-là pour davantage peut-être répondre à un amoindrissement du droit de l'environnement par une meilleure lecture des données scientifiques qui le concernent.
On va passer à l'agenda librairie. Quel rendez-vous ou référence souhaiterais-tu nous communiquer ?
J'aimerais vous recommander un livre récemment sorti et remarquable pour sa capacité à, en quelques pages, traiter d'un sujet abyssal. Ce livre s'appelle « Justice climatique pour une nouvelle lutte des classes ». Il a été écrit par mon confrère Sébastien Mabille, qui est une référence aujourd'hui au sein des avocats pour la protection de l'environnement, je devrais dire. Ce livre, je pense, est très utile. Il a favorisé un format, et surtout facile à aborder. On n'a pas l'impression qu'on s'apprête à lire le dernier rapport du GIEC, et c'est plusieurs centaines de pages très techniques. Mon confrère Sébastien est parvenu, de manière assez impressionnante, à réaliser une synthèse de la situation, une synthèse des données, notamment des derniers rapports du GIEC, d'ailleurs. Et il parvient aussi à apporter des pistes de réflexion, définir un petit peu un horizon potable, en tout cas, devrait être envisagé par rapport à la situation actuelle, du climat via un prisme social, puisque justement il parle d'une nouvelle lutte des classes, donc on sent bien que le vocabulaire utilisé ici fait appel justement à d'autres débats socio-économiques, et je trouve en cela vraiment très pertinent et vraiment remarquable. À Marie Curie. Rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Une fois que je fais mon petit footing au fin fond du 93, là où j'habite, il y a toujours, toujours, toujours une personne qui, lorsqu'elle s'écarte, me regarde et me dit « Pardon ! Et surtout bon courage !» J'adore ça.
Tu y as pêché où, baobab, acajou ?
Voici que cet épisode, aux côtés d'un veilleur éclairé pour la défense du monde vivant, prend fin. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à une nouvelle fraîchement cueillie.
Des landes palissandres, mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.